Jean-François Zigel. La preuve par Z. Une émission de musique classique faite à la main et pour les oreilles. Bonsoir. Finale d'une symphonie pour corps, cordes et basses continues de Telemann, Georg Philipp de son petit nom. Alors en fait c'est drôle, moi ce morceau me fait à la fois penser à de la musique de plein air avec ses cors qui sonnent comme des trompes de chasse et à de la musique d'intérieur, de la musique de salon avec le clavecin et les cordes. Les joies de la chasse et de la nature apprivoisées en quelque sorte. Vigoureux, roboratif, un bon début d'émission vous ne trouvez pas ? En tout cas, une bonne manière de rendre hommage à Telemann et aux quelques 6000 œuvres qu'il a composées. Oui, vous avez bien entendu, 6000 œuvres. Il n'a pas chômé celui-là. Incontestablement, le compositeur le plus fécond de l'histoire de la musique, dont le talent était très apprécié de son ami Jean-Sébastien Bach, qui en fera le parrain de son second fils. Côté interprétation, c'était Gottfried von der Goltz qui dirigeait du violon les excellents instrumentistes du Freiburger Baroque Orchester. Un extrait de l'amusant album intitulé « Concerti all'arrabbiata ». Oui, oui, arrabbiata, comme la sauce pour les spaghettis, un album qui regroupe des œuvres titillant non pas les papilles, mais les oreilles. N'est-ce pas d'ailleurs un peu le principe de la preuve par Z ? Alors, on continue, toujours du baroque, mais français cette fois, et nous passons du profane au sacré, de l'instrumental au vocal, avec un bel extrait du « Requiem » de Jean Gilles. Je me souviens que quand j'étais plus jeune, lorsqu'on demandait à quelqu'un ce qu'il aimait en musique classique, sortaient invariablement les quatre saisons de Vivaldi, les gymnopédies de Satie, l'adagio d'Albinoni, Carmina Burana et le Requiem de Gilles. C'était un enregistrement de 1965 sous la direction de Louis Frémaux qui avait tout déclenché et l'œuvre faisait un tabac chez les chœurs amateurs. Composé vers 1700, ce Requiem était d'ailleurs déjà devenu un tube au XVIIIe siècle. Vous vous souvenez? Les funérailles de Louis XV en 1774? Ou quelques années plus tôt, celles de Stanislas Ier, duc de Lorraine, grand-duc de Lituanie et roi de Pologne, s'il vous plaît? Il faudrait aussi parler de l'enterrement de Jean-Philippe Rameau, sans oublier les propres funérailles de Jean Gilles. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Thank you. C'était le graduel du Requiem de Jean Gilles, au rythme grave de Sarabande, aux belles harmonies douces amères, offrant à la fois le caractère d'une danse et d'une déploration. Une magnifique version enregistrée à Toulouse en 2008 dans la belle église Saint-Pierre des Chartreux. La basse Alain Buet, le chœur de chambre Les Éléments, l'orchestre Les Passions, étaient placés sous la direction inspirée de Jean-Marc Andrieux. Alors, avez-vous fait attention à la manière dont les chanteurs avaient prononcé le latin ? Et lux perpetua luceat eis, à la française, comme on le faisait au XVIIe siècle, et non pas la traditionnelle prononciation romaine et lux perpetua luceat eis que nous avons plus dans l'oreille. Tiens, justement, à propos de prononciation, faut-il dire francom ou franchom? Allez, on va dire francom. Auguste Joseph Francom, violoncelliste, compositeur, le grand ami de Chopin. Vous vous rappelez qu'il y a quelques semaines, j'avais diffusé le scherzo de la sonate pour violoncelle et piano de Chopin par Juliette Salmona et Catherine Nikitine, un extrait de leur album « Chant d'adieu ». Un album passionnant, car il parcourt l'amitié entre Chopin et Francom. Ce Francom était vraiment quelqu'un de très intéressant, une figure importante de la vie musicale parisienne et de l'école française de violoncelle. Il était même considéré comme le meilleur violoncelliste de son temps, généralisant notamment l'usage de la pique, cette tige de métal que l'instrumentiste plante dans le sol, améliorant considérablement la stabilité de l'instrument pour une virtuosité démultipliée. Et puisque Francom était aussi compositeur, je vous propose d'écouter l'un de ses nocturnes pour piano et violoncelle, un violoncelle particulièrement lyrique, développant tel un chanteur de longues mélodies expressives, le triomphe du legato. Thank you. Juliette Salmona était au violoncelle, Catherine Nikitine au piano. Nous écoutions le troisième nocturne d'Auguste Joseph Francomme, l'une des œuvres figurant dans le beau disque Chant d'adieu que le duo a récemment gravé. Restons romantiques avec un Franz Schubert de 26 ans. Nous sommes en 1823, Schubert signe l'une de ses plus belles sonates pour piano. Elle ne sera publiée qu'après sa mort par le fameux éditeur-compositeur Diabelli. Diabelli qui n'hésitera pas à donner à l'œuvre le titre de grande sonate. Ça fait plus vendeur. Ajoutant au passage une dédicace à Félix Mendelssohn que Schubert n'avait jamais envisagée. Dans le dernier mouvement de cette géniale sonate, vous allez voir, tout sonne instable. Les nuances vont du murmure à l'explosion, les modulations sont incessantes. On y repère trois éléments, des triolets fuyants et aquatiques, un saisissant motif rythmique et un chant évanescent, mi-lumineux, mi-mélancolique. Trois énergies complémentaires, pour moi comme un reflet de nos vies, mouvement, obstacle, lumière.
Thank you.
le final de la sonate en la mineure D784 de Schubert. Et une fois de plus, en écoutant cette magnifique interprétation de Denis Pascal, je me dis que ce pianiste français s'affirme concert après concert, disque après disque, comme l'un des grands pianistes schubertiens de notre époque. Alors c'est drôle, en écoutant avec vous ce morceau, je me disais que ça me faisait furieusement penser au début de la Moldao de Smetana. Vous savez, lorsque les deux ruisseaux se rejoignent. Tiens, réécoutons le début du Schubert. Et maintenant, à l'orchestre, le début de la Moldao. Alors, qu'en pensez-vous ? Il y a quelque chose, non ? Bon, et si on passait à table maintenant ? Je pense aux fameuses symphonies pour les soupers du roi, ces quelques 250 pièces écrites par Michel Richard de Lalande pour le roi Louis XIV. De Lalande, vous savez, c'est l'autre grand compositeur de la cour avec Lully. Ces symphonies étaient donc destinées à accompagner tous les 15 jours le cérémonial rigoureusement réglé du grand couvert du roi, un dîner qu'il prenait à 22h. Une musique d'apparat qui suit le rythme des 10 plats qui se succèdent en 4 services, potages et entrées, roux et salade, entremets, dessert. On imagine la scène, le roi assis dos à la cheminée, de chaque côté deux tribunes où sont installés les musiciens. À tout moment, le roi peut demander à réécouter une pièce. C'est un jukebox royal en quelque sorte. Et il y a une pièce qu'il devait tellement aimer que Delalande a fini par lui donner le titre de « grande pièce royale » que le roi demandait souvent. Je vous propose d'en écouter le début. Si saisissant, si majestueux, une sarabande expressive, noble. Puis le tempo s'anime, on imagine le cortège des officiers de bouche s'affairant à disposer les plats. Thank you. C'était la grande pièce royale que le roi demandait souvent, l'une des symphonies pour les soupers du roi de Michel Richard de Lalande, interprétée par le poème harmonique de Vincent Dumestre. Alors attention, une symphonie au XVIIe siècle, ça n'a vraiment rien à voir avec les symphonies de Mozart, Haydn, Beethoven, Brahms. Ici, ce n'est pas une grande construction orchestrale en quatre mouvements. Ça désigne simplement un morceau de musique purement instrumental. Et puisque j'ai cité Brahms, voici un exemple de symphonie selon la grande tradition romantique, avec le troisième mouvement de sa première symphonie. En principe, le troisième mouvement d'une symphonie est un mouvement de divertissement, une sorte de détente, de parenthèse dans le grand récit symphonique. Menuet au XVIIIe siècle, il prend la forme plutonique du scherzo au début du XIXe, lui-même volontiers remplacé quelques décennies plus tard par une valse chez Tchaïkovski ou bien chez Brahms parce que l'on pourrait appeler un intermezzo, un intermède, c'est-à-dire une pièce ni lente ni rapide, de caractère aimable, une pièce feel-good en quelque sorte.
Thank you.
le si beau troisième mouvement de la première symphonie de Brahms. Jérémy Rohrer dirigeait les musiciens du Cercle de l'Harmonie, un orchestre jouant sur instruments d'époque avec ses couleurs feutrées, particulières, j'allais presque dire pastel. Et c'est toujours émouvant de penser que c'est avec ces sonorités que le compositeur l'avait à l'époque entendu. Je vous propose maintenant une pièce singulière, unique, une poésie très particulière, paradoxale même. Paradoxale car il s'agit d'une fugue, celle du Tombeau de Couperin de Maurice Ravel, la seule fugue écrite par le compositeur, en dehors bien sûr de ses exercices d'écriture lors de ses années d'études au Conservatoire de Paris. Comme toute fugue, c'est une pièce très construite, dans laquelle les trois voix se répondent façon canon. Mais comme le sujet de la fugue est comme mangé de silence, le résultat est étrange, assez poétique pour tout dire. Le thème est entendu à toutes les voix, puis renversé, c'est-à-dire que les mouvements montants de la mélodie deviennent des mouvements descendants. Tout cela est merveilleusement rendu par le jeune pianiste Clément Lefebvre dans son dernier disque consacré à Ravel. J'ai dû écouter une dizaine de fois son interprétation de cette fugue du Tombeau de Couperin. Je ne m'en lasse pas. Il y a quelque chose de si doux, d'énigmatique aussi. Le jeune pianiste français Clément Lefebvre interprétait la fugue du tombeau de Couperin de Maurice Ravel. Ah, la fugue du tombeau de Couperin. Un morceau qui me rappelle mes années d'études au conservatoire, quand pour le concours de sortie, on devait rester enfermé pendant 17 heures avec un sujet donné à 6h30 du matin pour écrire une fugue. Alors pour modèle, on avait le choix entre Bach, Beethoven et Ravel. Et quand on choisissait Ravel, eh bien on était bien embêté, car il n'y avait qu'un seul exemple, justement la fugue que nous venons d'écouter. Alors, chers auditeurs de La Preuve par Z, je ne sais pas si le paradis existe, mais une chose est sûre, s'il existe, on y entend les quatuors de Haydn. C'est qu'il y a dans ses œuvres une telle fraîcheur, une telle invention, une telle originalité. On dit parfois que le quatuor à cordes, c'est le cœur de la musique classique. C'est incontestablement la formation de musique de chambre pour laquelle les compositeurs ont le plus écrit. 68 quatuors pour Haydn, 23 pour Mozart, 16 pour Beethoven, 15 pour Schubert et 15 pour Shostakovich. Allez, écoutons maintenant l'un des derniers quatuors à cordes de Haydn, écrit dans les toutes dernières années du 18e. Et c'est d'ailleurs drôle de se dire qu'au même moment, Beethoven écrit quant à lui ses premiers. Un vigoureux premier mouvement qui est construit comme souvent chez Haydn sur un seul thème, qu'on identifie facilement avec son rythme pointé de marche. Tam-ta-tam, tan-ta-tan, tan-ta-tan, tan-ta-tan. merveilleuse conversation à quatre. C'était le premier mouvement du Quatuor Opus 77 numéro 1 de Haydn, formidablement bien interprété par les archets du Quatuor Prajak. Et à chaque fois que j'écoute un Quatuor de Haydn, je ne peux m'empêcher de l'imaginer au pupitre, celui de premier violon, comme il en avait l'habitude quand il jouait ses Quatuors. Haydn était par ailleurs réputé pour son humour. Reste à savoir ce que c'est l'humour, et plus précisément l'humour en musique. C'est qu'il y a l'humour jovial et bon enfant des Strauss de Vienne, les plaisanteries musicales de Mozart, l'esprit potage d'Offenbach, le loufoque à la Eric Satie, ou bien le fameux humour noir, souvent grinçant et sarcastique, du compositeur russe Shostakovich. Certaines de ses compositions sont même pour moi de véritables danses macabres, dont l'ironie mordante, voire acide, était sans doute pour lui l'une des seules manières de rester vivant face à Hitler et Staline. Ne dit-on pas « l'humour », c'est quand on rit quand même.
Thank you.
méchant éclat de rire du xylophone, le gloussement des bassons. Entre fanfare et orgue de barbarie, ce mélange de trivial, d'étrange et de sarcastique typique des scherzos de Chostakovitch, c'était le deuxième mouvement du deuxième concerto pour violoncelle, interprété par Marc Coppé, accompagné de l'Orchestre Symphonique National de la Radio Polonaise, sous la direction de Lawrence Foster. Alors, après ce rire grinçant, il nous faut un peu de douceur, n'est-ce pas, pour conclure dignement cette preuve par Z. Connaissez-vous la merveilleuse mélodie « Down by the Sally Gardens » ? Sans doute l'une des plus célèbres mélodies d'amour irlandaise. De nombreux compositeurs en ont écrit l'arrangement, à commencer par Britten pour le premier volume de ses fameux cahiers d'arrangements de chansons populaires. Et plus récemment, c'est le célèbre compositeur et guitariste cubain Leo Brauer qui en a proposé un arrangement en duo pour voix et guitare dont les harmonies douces amères rehaussent avec bonheur la tranquille mélancolie de la mélodie d'origine. Une œuvre intimiste, un ton doucement mélancolique qui pleure un amour que l'on n'a pas su recevoir. On s'est connus près des jardins de saules. Elle me dit « Aimons-nous simplement, comme les feuilles poussent aux arbres. » Mais en ce temps-là, jeune et insensé, je refusais. J'étais jeune et insensé. Je suis depuis plein de larmes.
Down by the sun.
Très joli arrangement, petite surprise harmonique et appoggiature aigre-douce, une instrumentation poétique et intimiste avec la guitare d'Edine Karamazov et la voix singulière, persuasive, lancinante du contre-ténor Andreas Scholl. Nous écoutions la chanson traditionnelle irlandaise « Down by the Sally Gardens » dans l'arrangement du compositeur cubain Leo Brauer. C'était La Preuve par Z, une émission de Jean-François Zigel, réalisée par Anne Weinfeld et préparée avec Théo Fricono, chef opérateur du son Guillaume Ledu. À la semaine prochaine.